Amis de Radio Silence, bonjour. Nous sommes le mardi 8 octobre. Vous écoutez Flash sur le monde, c'est Elise Mbok depuis Yaoundé. Ça va être un flash bref parce que nous sommes pris par des contraintes techniques. Bien, le Cameroun a donc terminé son grand dialogue national qui a eu lieu le jour dit. C'est très important, la formule aujourd'hui, du 30 au 4 octobre, quelque chose comme ça, parce que le 5, tout de suite après le dialogue, on libérait l'opposant politique, Maurice Kamto, avec une grande délégation. Certains sont encore en prison. Et entre-temps, on avait aussi procédé à la libération de 333 sécessionnistes repentis, qui sont aussi sortis de prison. Disons que pour le dialogue national, on ne va pas commenter parce que ce n'était pas vraiment un dialogue. Disons que les conditions de sa non-efficience étaient inscrites dans son générique, puisque le président de commission était connu, le président, je ne sais pas quoi, il y a eu 8 commissions, le secrétaire, le rapporteur, les participants, tout était bien ficelé, les invités choisis, triés sur le volet, vous voyez un peu que des institutionnels, partis politiques, opposition ou pas, mais beaucoup d'amis du pouvoir, et le pouvoir majoritairement représenté, c'était... ça donnait ce que ça donnait, c'est-à-dire qu'au final, ce qu'on retient, c'est pas vraiment les conclusions de ce dialogue, c'est plus la sortie du professeur Maurice Kamto, chef de l'opposition, qui contestait l'élection présidentielle. On va donc pas parler de cela, puisque ça n'a pas porté de fruits probants. Par contre, on se dit qu'on peut peut-être inspirer, pour une fois, inspirer le pouvoir en place en prenant l'exemple de Jacques Chirac, parce que c'est quand même une coïncidence carrément métaphysique que le président Chirac meurt au moment de ce grand dialogue national qui a eu lieu le jour dit. Le jour dit, c'est en référence à la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations qui devait avoir lieu à Yaoundé cette année et qui a lamentablement foiré, alors que le président avait dit le jour dit. On le lui a tellement rappelé que là, il s'est engagé dans son discours qui annonçait le grand dialogue national à respecter la date. C'était fin du mois jusqu'au 4 et ça a eu lieu le jour dit. Donc, il donne déjà le signal qu'il respecte sa parole. Bon, ceci étant, le dialogue, la composition du dialogue, et il s'en était pas un de dialogue de toute façon, sans les principaux opposants et les prisonniers politiques. Bien, l'exemple de Jacques Chirac, moi j'ai voulu rendre un hommage à Jacques Chirac en 5 points. C'est vrai que Monsieur Chirac, on peut lui reprocher la France-Afrique. Hein. La France-Afrique qui a tué beaucoup de gens en Afrique, qui a pilonné le développement de l'Afrique. Oui, bon, moi je vais dire, personne n'est parfait. Je retiens 5 choses du président Chirac qui peuvent inspirer vraiment le changement ici au Cameroun. C'est d'abord le fait que le président Jacques Chirac était présenté comme un homme généreux, ça se voyait par son sourire communicateur, vous voyez, ses bras toujours ouverts, cet épicurien comme ça, ça dénotait une joie de vivre qui peut être, qui peut inspirer le dirigeant africain qui est toujours très crispé, qui arrive toujours très violemment comme ça, dans son physique, se présentant par la force, on dirait un militaire. Il pourrait prendre exemple sur le communicateur qui était Jacques Chirac, et vous voyez, le gars très détendu, qui d'ailleurs, contrairement au président Macron, savait gérer les questions. Vous savez, quand il y a un conflit, il vient parfois et puis il appelle 2 ou 3 gars qui sont les représentants. On se parle d'homme à homme, les yeux dans les yeux. Le président Chirac avait cela à son actif. Il avait aussi à son actif d'être, un homme d'État qui a procédé à la réforme institutionnelle. Et la grande réforme, c'est vraiment d'avoir institué le quinquennat, d'avoir aboli le septennat et d'avoir institué le fait qu'il y aurait deux mandats, point barre. Si le Cameroun peut s'en inspirer, ce serait très très bien, et surtout qu'il s'est appliqué à lui-même. Et donc on attend peut-être du président Biya qu'il instaure le quinquennat et qu'il se l'applique à lui-même. Ça va nous faire du bien, enfin pour la paix. Ensuite, de Jacques Chirac, je retiens que c'est quelqu'un qui était proche de la tradition et de la terre, notamment avec toute sa présence comme ça qui irradiait le salon de l'agriculture. Il en a fait un grand symbole de ses présidences, de ses passages au gouvernement. Et on ne peut pas lui enlever cela. C'était vraiment formidable à chaque fois. Et de la même façon qu'il était un amoureux du sumo qui parle de tout sauf du combat, en fait. Vous voyez, ça parle du respect, ça parle de la propreté, ça parle de l'esthétique, ça parle des choses qui sont hors combat, des valeurs, de la morale, du respect de l'adversaire. Et puis, puisque là, il faut aller vite parce qu'on est limité par les conditions techniques. Le président Jacques Chirac, c'est celui aussi qui a donc créé une fondation pour le dialogue entre les cultures. C'était prémonitoire, c'est un legs qu'il laisse à l'humanité et surtout au Cameroun. Nous, on n'a pas vraiment des cultures différentes, encore qu'entre les anglophones et les francophones, ça, on a fait un flash là-dessus, il y avait des différences culturelles fondamentales. Et l'un des points de dialogue qui est contesté, l'un des points du dialogue qui est contesté, du grand dialogue national ici, c'est cette idée de faire, de ne pas accorder le fédéralisme aux sécessionnistes, c'est-à-dire à la partie anglophone justement, très précisément qu'ils demandent pour des différences culturelles. Et si on se place dans cette position de dialoguer entre les cultures, on devrait la leur accorder, parce que ça ne change rien à l'unité, à la fédération camerounaise. Bon, on verra bien, mais le président est contre cela. Non, pas de fédération, pas de changement de la forme de l'État. Du coup, pas de réforme institutionnelle, alors que si ce dialogue avait une importance, c'était vraiment de réformer tout institutionnellement, y compris, bon, on parle du code électoral qu'on verra. On verra bien, on ne parlera pas vraiment de politique ici. On parle de la philosophie politique. Et en dernier lieu, ce que je retiens du président Jacques Chirac, c'est quand même, c'était un ami africain. On a beau dire, lorsque des gens comme Jacques Chirac étaient là, l'Afrique était pillée. C'est vrai, on lui reproche d'avoir détruit la Côte d'Ivoire. Oui, mais beaucoup d'autres choses relatives à la France-Afrique. Ben, c'est vrai aussi que la France lutte pour sa survie. Qu'est-ce que vous croyez? Les Africains, ils sont politiquement naïfs. À un moment donné, il faut négocier aussi dans le réalisme, sachant le rapport de force et sachant aussi que ce n'est pas la France qui va développer l'Afrique. Hein. Ça, il ne faut pas rêver. Donc on est là en porte-à-faux dans des accusations qui font que, oui, le président Jacques Chirac, il a combattu Laurent Gbagbo, c'est clair, parce que Laurent Gbagbo voulait libérer l'Afrique et ça a joué contre les intérêts africains. Toujours dans ce même ordre d'idées, on doit quand même à Jacques Chirac d'avoir résisté contre Sarkozy, parce que le système Sarkozy, on peut tout dire, c'est pire que la Chirakie. Autant les gens comme Chirac, De Gaulle, avant lui, les autres présidents, Valéry Giscard d'Estaing, Pompidou, etc., c'était quand même des gens, enfin, etc., je pense pas, c'était quand même des, François Mitterrand, je voulais dire, c'était quand même des gens qui avaient quand même un souci d'État, c'est-à-dire une forme de spoliation, peut-être retenue. Aujourd'hui, le système mondial qui a commencé avec la guerre délibérée et brutale contre l'Irak, le système mondial, c'est un système de prédation cannibale, de vampirisme pur. Et je veux dire, c'est M. Sarkozy qui représente, avec bon, sa génération, représente ce truc étouffant, qui est carrément de la recolonisation claire et nette. Et ça, on doit quand même à Jacques Chirac d'avoir lutté contre cette arrivée, parce que quelque part, il protégeait aussi l'Afrique, hein, à son corps défendant. Elle n'a pas toujours vu, elle n'a pas toujours compris, parce qu'il savait bien qu'une fois les Sarkozy arrivés, on arrivait à ce désastre libyen qu'on a eu. Et pour finir, bah, on n'a pas le temps, on va vite pour finir. On va quand même dire que Jacques Chirac, c'est le président qui avait dit que l'Afrique n'était pas mûre pour la démocratie. Au moment où il a dit, on a hurlé au loup, on dit, mais comment il peut dire ça, il nous méprise et tout. Mais franchement, quand on voit la pratique de la démocratie en Afrique, et au Cameroun en particulier aujourd'hui, oui, l'Afrique n'était pas prête pour la démocratie, ni les Africains d'ailleurs, parce qu'ici, le débat, ça part dans tous les sens, tout le monde a raison, et puis il y a la culture du chef qui est très ancrée dans la culture précisément africaine, où la tradition et la modernité s'entrechoquent brutalement, en sorte que on ne sait plus si le président est un grand chef traditionnel, vous voyez. Un bombok, un kingé, tout ce que vous voulez. Kingé, ça veut dire roi. Un bombok, ça veut dire encore le grand prêtre, là, vous voyez, les prêtres, que, je ne sais plus comment on appelait là, la grande salle, là, on est dans le temple Israël, le Saint des Saints. Et tout ça fait que cette collusion entre le traditionnel et la modernité, collusion mal maîtrisée, aboutit au clash qu'on a actuellement. Le chef d'État, il n'écoute pas, lui, c'est le chef suprême. Et puis les autres, c'est un peu les soumis. Et l'Afrique elle-même a son propre esclavage qu'elle ne veut pas avouer. Et c'est dommage. Bien, amis de Radio Silence, je vous ai dit qu'il fallait être très très brève. Je vous dis, portez-vous bien. C'était Flash sur le monde depuis Yaoundé. Je suis Elise Mock. Je vous salue et je vous dis à bientôt. Thank you.